Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Éric Servat, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes hydrologue, vous êtes directeur de recherche à l'IRD, donc l'Institut de Recherche et de Développement, l'ancienne IRSTOM qu'on connaît et qui existe de longue date. Vous avez participé à la construction du Centre UNESCO pour l'eau à Montpellier, dont vous êtes directeur, qui regroupe 400 scientifiques, c'est énorme. Alors, racontez-nous cette route qui est en même temps un peu votre parcours personnel.
Oui, bah vous avez commencé par le mot juste, c'est-à-dire que je suis hydrologue. Voilà, mon métier, ma formation, c'est une formation d'ingénieur hydrologue. Je suis d'ailleurs un pur produit montpelliérain. J'ai fait mes études à ce qui s'appelait l'ISIM et qui s'appelle aujourd'hui Polytech Montpellier. Et donc je suis ingénieur de cette école. Et ensuite j'ai fait deux doctorats sous la direction de Michel Desbordes, qui était professeur à l'université de Montpellier. Voilà, et puis je suis rentré effectivement, vous l'avez dit, à l'IRSTOM dans un premier temps, parce que c'était il y a déjà quelques années, qui est aujourd'hui l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement.
Et, partout dans le monde.
L'IRD travaille principalement dans les pays du Sud, hein, et moi j'ai été affecté longtemps en Côte d'Ivoire, et j'ai beaucoup travaillé sur le continent africain. Au début de ma carrière, je travaillais sur un projet qui était, sur deux projets, un projet que j'avais monté, qui était un projet d'hydrologie proprement dit, donc qui s'intéressait au cycle hydrologique et à la ressource en eau en Côte d'Ivoire. Et en même temps, je travaillais sur un projet qui était un projet finalement porté par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et c'était très intéressant, et c'est sans doute là aussi où j'ai commencé à comprendre que la pluri- et l'interdisciplinarité avaient beaucoup d'intérêt, puisque c'était un projet qui avait pour objectif de lutter contre l'oncocercose. Vous savez, l'oncocercose, c'est cette maladie qui rend les gens aveugles. Et donc, il y avait rassemblé des mathématiciens, des hydrologues, évidemment des virologues,
des biologistes. Oui, parce que c'est une maladie qu'on attrape dans les ruisseaux.
Alors, c'est une maladie qu'on attrape à proximité des ruisseaux. En fait, vous avez une petite mouche noire, une simulie, qui est porteuse de filaires. Et cette simulie, en fait, elle vous pique. Et en vous piquant, elle vous inocule ces filaires qui viennent tous migrer sur le nerf optique. Et à terme, ça rend les gens aveugles. Et ce qui est dramatique, c'est que, évidemment, comme il faut de l'eau, ce sont les régions où les gens s'installent, en particulier dans les régions sahéliennes ou subsahéliennes, là où il y a un peu d'eau, il y a des villages, il y a des gens, ils vivent là. Et là où tout est a priori réuni pour qu'ils vivent bien, finalement, ils attrapent ces maladies et ils deviennent aveugles pour un grand nombre d'entre eux. Et c'était extrêmement frappant. J'ai eu, donc ça, je vous parle il y a une quarantaine d'années maintenant, pas loin en tout cas, 35 ans. J'avais eu l'occasion de survoler ces régions en hélicoptère, puisque les traitements larvicides se faisaient en hélicoptère et en avion. Et c'était absolument dramatique de voir que dans tous les endroits où potentiellement il y aurait dû y avoir des populations, des villages, de la vie, il y avait des ruines de villages abandonnés parce que devant la maladie, les gens fuyaient finalement.
Et au bout de 40 ans, est-ce que vous avez réussi un peu à...
Alors même en moins de 40 ans, il y a eu effectivement une éradication de cette maladie sur toute une zone qui fait près de 3 millions de kilomètres carrés, ce qui est quand même énorme, sur toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et on voit revenir des gens là où précédemment il y avait des populations installées dans des villages. Et donc ça, participer à ce genre de projet, c'est très enthousiasmant.
Donc vous avez pris un peu, vous aviez déjà finalement le virus de l'international. Et en travaillant sur l'Afrique, vous avez poursuivi en revenant sur Montpellier.
Alors j'ai poursuivi effectivement en revenant sur Montpellier. Vous savez, moi j'ai grandi en Afrique. Donc cette dimension internationale, finalement, c'est quelque chose qui est en moi et qui est très importante. J'ai une Madeleine de Proust très très particulière, parce que donc quand j'étais petit garçon, j'ai grandi en Afrique. Mon père était médecin et il travaillait dans les hôpitaux de santé publique. Et je me souviens de j'ai en moi cette odeur de la pluie qui tombe sur des sols desséchés dans les zones sahéliennes, desséchés parce que pendant des mois, il n'y a pas eu de précipitation. Et donc, j'ai ce côté africain, ce côté international, et déjà ce côté précipitation, pluie. Peut-être que ça a contribué à faire de moi un hydrologue, je ne sais pas.
En tout cas, on va en reparler tout à l'heure. Donc, de là, quand même, quand vous êtes revenu à Montpellier, donc vous avez poursuivi votre travail d'hydrologue, de chercheur, vous êtes devenu directeur de recherche, vous avez dirigé de nombreuses thèses, je suppose, qui étaient en lien avec ce territoire.
Alors tout à fait, effectivement. Donc quand je suis rentré d'Afrique à la fin des années 90, et on m'a rapidement confié la direction d'un gros laboratoire qui s'appelle Hydrosciences Montpellier, que j'ai dirigé de 2001 à 2014. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup de compétences rassemblées dans ce laboratoire. Et finalement, le bassin méditerranéen et le continent africain étaient des terrains d'études qui étaient assez naturels pour les équipes du laboratoire. Et donc, ça m'a permis, moi, de continuer à travailler sur ces terrains-là, qui sont des terrains que je connais et pour lesquels j'ai beaucoup d'intérêt. D'abord parce que ce sont des terrains dans lesquels la question de l'eau est une question primordiale. Elle est essentielle. Alors évidemment, on fait rien sans eau, mais c'est encore plus compliqué quand il y en a peu. Et sur le bassin, la rive sud du bassin méditerranéen et une bonne partie du continent africain, la problématique, c'est la raréfaction de la ressource en eau. Et donc effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets et avec de nombreux thésards méditerranéens, africains, sur ces problématiques-là.
Alors ensuite, vous êtes passé, enfin récemment, vous venez donc de créer ce centre UNESCO qui est consacré à l'eau. Et finalement, il y en a très peu de centres UNESCO de ce genre. Enfin, c'est le seul sur l'eau, mais il y a une trentaine de centres UNESCO dans le monde.
Alors, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, vous avez une trentaine de centres internationaux UNESCO sur l'eau dans le monde.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Mais globalement, vous en avez la moitié qui est vraiment vraiment opérationnelle. Et en tout cas, le centre de Montpellier est le seul en France. Vous avez en France, dans le domaine de l'eau, un assez grand nombre de chaires UNESCO.
Il y a longtemps qu'on s'en occupe des problèmes de l'eau.
Voilà, mais vous avez donc des chaires dans différents domaines. Vous allez avoir des chaires qui vont traiter de la question de eau et agriculture. Vous allez avoir des chaires qui vont traiter de la question de la potabilisation de l'eau. Vous en avez qui vont regarder plutôt l'eau.
Quand vous parlez des chaires, vous parlez des universités.
Non, je parle des chaires UNESCO.
Des chaires UNESCO.
Voilà, parce qu'à l'UNESCO, vous avez des chaires et des centres. Les chaires, c'est plus petit. Une chaire, c'est une idée, un sujet, une équipe, et ça fonctionne comme ça. Et le dossier, en fait, est assez facile à monter. Si vous avez une bonne idée, une bonne équipe, vous avez de bonnes chances de voir votre projet aboutir. Et il y en a vraiment sur la question de l'eau, sous tous les angles. L'angle du droit, l'angle culturel, l'angle technique, technologique, etc. Vous avez un assez grand nombre de chaires qui existent. Mais en revanche, il n'existait pas de centre international UNESCO sur l'eau en France. Et d'ailleurs, il y a très peu de centres internationaux, tous domaines confondus en France. Aujourd'hui, il y en a trois, en tout et pour tout.
Alors, on va en reparler, bien sûr, tout à l'heure. Et donc, vous avez pris en plus une direction qui est les enfants. Alors, ça correspond d'ailleurs à Montpellier à hauteur d'enfants. Mais on reparlera de cela. Alors, bientôt, on va quand même tout de suite parler de Montpellier. Alors, avant de parler des questions internationales, on va revenir un peu au sujet de l'eau à Montpellier. Alors, moi, je vois un peu de temps. D'abord, il y a eu une époque Où les problèmes étaient révolus parce que l'eau était très abondante. On avait fait en sorte que Montpellier soit relié à des sources d'eau extrêmement abondantes. On parlait aussi des événements cévenols qui descendaient jusqu'à Montpellier et qui même menaçaient d'inondation parfois Montpellier. Donc on avait une eau très présente. Et puis aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on est dans une phase de sécheresse, de manque d'eau. Finalement, par rapport à ce que peut nous prévoir le GIEC dans la suite des événements, est-ce qu'on est sur une période d'événements extrêmes de surabondance de l'eau, ou au contraire, est-ce qu'on est sur une période un peu de maghrébisation, de sécheresse Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'hydrologue ?
Alors moi, je pense d'abord en lisant effectivement ce que dit le GIEC. Je suis pas climatologue, donc je regarde ce que me disent les gens qui sont des spécialistes du climat et de l'évolution du climat. Et ce qu'on entend aujourd'hui, ou ce qu'on peut lire aujourd'hui, c'est que les choses vont s'inverser. Là où autrefois, des années avec des étés secs et des sécheresses longues étaient tout à fait exceptionnelles, ça va devenir la norme. C'est-à-dire qu'on va se retrouver donc de manière habituelle dans un climat qui est celui qu'on vit maintenant depuis 2 ou 3 ans, où effectivement nous avons des étés qui sont particulièrement secs et longs, et avec des chaleurs très fortes et donc des sécheresses très intenses. Et on a des automnes et des printemps qui sont censés être pluvieux, très pluvieux, voire en climat méditerranéen, et qui, depuis 2-3 ans au minimum, sont très en dessous de ce qu'il nous faudrait pour recharger nos réserves.
Alors médiatiquement, on le sent pas. Enfin, Météo France n'insiste pas vraiment sur cet aspect des choses, je trouve.
Je serais moins sévère que vous, Dominique, vis-à-vis de Météo France. Je pense que on voit quand même un certain nombre de choses. Alors, vous savez, il y a quand même la partie météo puis la partie climat. C'est pas la même chose. Hein. Donc, la météo, c'est du court terme, et le climat, c'est une tendance à long terme. Rien ne nous empêchera à l'avenir d'avoir des années particulièrement arrosées, avec des pluies violentes, des crues, etc. Mais manifestement, au vu des résultats que met en avant le GIEC, à l'avenir, nous aurons plutôt un climat avec des étés plus longs, plus secs, plus chauds et de manière plus intense. Et puis, nous aurons des périodes de précipitations qui seront au mieux à peu près du niveau de ce que nous avions jusqu'à présent. Donc, incontestablement, la question de la ressource en eau va devenir, en tout cas sur tout l'arc méditerranéen, un vrai sujet. Un sujet sur lequel il va falloir réfléchir et travailler.
Alors, bien sûr, on a. Vous allez aussi me remettre sans doute un peu en place en ce qui concerne les nappes phréatiques. Elles ne sont pas toutes phréatiques, je sais, mais on a des nappes qui se sont asséchées et de ce fait, par un effet un peu de château d'eau, enfin, elles se remplissent d'eau de mer par en dessous. Est-ce que c'est quelque chose qui risque de se généraliser ? C'est-à-dire que à l'absence finalement de précipitation risque en plus de s'ajouter ce phénomène de salinisation venu par la mer.
En fait, vous avez un équilibre qui se trouve entre les nappes et le niveau de la mer. Et lorsque vous asséchez les nappes, vous modifiez cet équilibre. C'est de la physique. Et si vous modifiez un des paramètres, vous allez modifier l'ensemble de l'équilibre. Et donc effectivement, quand vous avez une nappe qui est peu réalimentée, ou en tout cas pas réalimentée, au niveau où il faudrait la maintenir, parce que vous avez une exploitation de la nappe. Les nappes sont exploitées, on a besoin d'eau, c'est normal. Mais si la recharge ne se fait pas comme elle se faisait précédemment, vous modifiez cet équilibre. Et donc, vous laissez avancer vers l'intérieur, effectivement, les eaux salées. Et donc, il y a une contamination de la ressource qu'on utilise habituellement.
Alors, est-ce que c'est ça qui s'est passé sur l'étang de Thau avec l'inversac qui s'est passé ?
C'est ça, l'inversac, c'est effectivement, à un moment donné, vous avez une modification de cet équilibre, et donc vous avez quelque chose qui est relativement exceptionnel, qui se produit, et qui fait qu'on a effectivement une contamination par les eaux salées de cette ressource en eau.
Or, c'est pas la première fois que ça se passe, et ça se passe de plus en plus souvent.
Ça n'est pas la première fois, et ça se passe effectivement. On en observe effectivement un certain nombre, et il faut trouver le moyen de maintenir cet équilibre. Donc, il va falloir aujourd'hui finalement raisonner à deux niveaux, c'est-à-dire raisonner à partir de ce qu'on connaît de l'évolution du climat, et donc dans ce qu'on peut imaginer, préjuger de ce que seront les ressources et donc les niveaux de réalimentation des nappes. Et il faut aussi raisonner par rapport à l'exploitation qu'on a de la nappe et de l'eau douce.
Alors par exemple, ils ont énormément de mal à se débarrasser du sel, il faut longtemps pour réussir à s'en débarrasser et à retrouver une eau normale, enfin une eau douce.
Absolument, quand l'eau est contaminée, vous avez du sel qui arrive et vous perdez la qualité initiale.
Alors, et c'est long ? C'est dur comme travail ?
Ah bah c'est long, oui, parce qu'il faudrait arriver à recharger la nappe et à remettre en équilibre les choses au niveau où elles étaient précédemment. Donc oui, ça n'est pas anodin, c'est pas juste quelque chose qui serait intéressant à voir sur le plan de la physique, du fonctionnement des nappes, etc. C'est quelque chose qui a un véritable impact au regard de l'exploitation des nappes dont nous avons besoin.
Donc ça peut avoir un effet sur les activités économiques, là en l'occurrence les thermes qui se trouvent menacées par cette remontée saline, ou ça peut être aussi l'alimentation en eau des villages.
Mais il va falloir être extrêmement vigilant. Effectivement, donc on a besoin de ça. D'ailleurs, il y a eu des projets qui ont été financés dans le cadre des contrats de plan État-Région qui permettent d'avoir des suivis à travers des forages profonds pour mieux comprendre l'hydrodynamique de ce système.
Mais une fois qu'on aura compris, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Une fois qu'on aura compris, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'il faut, il faut observer, il faut analyser, il faut comprendre et à partir de là, on est capable d'imaginer des scénarios d'utilisation, d'exploitation, etc.
Et vous croyez qu'on va pouvoir trouver ?
Mais on trouve. Vous croyez que les chercheurs font quoi ? Et très exactement. Vous savez, aujourd'hui...
Ils cherchent.
Ils cherchent, mais ils trouvent.
Ils cherchent et ils nous font beaucoup de modèles.
Non, ils cherchent et ils trouvent. Mais un modèle, c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas de modèle, vous ne pouvez pas faire les simulations. Vous ne pouvez pas faire de simulations, vous ne pouvez pas définir de trajectoire d'utilisation. Vous ne pouvez pas définir de scénario. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Mais pour faire des modèles, on a besoin de données. Et donc, il faut collecter de l'information.
Et ces données-là, on ne les a pas. On ne les a pas parce elles n'ont jamais eu lieu, finalement.
On les a aussi parce qu'on suit les nappes depuis très longtemps. On les a aussi parce qu'on a précisément, dans le cadre de ce contrat de plan État-Région, financé des forages profonds qui permettent d'acquérir de la donnée, de l'information et de mieux comprendre le fonctionnement. Et à partir de là, on est capable de proposer des solutions. Aujourd'hui, vous avez partout des gens qui travaillent, qui sont conscients de ce que le changement climatique nous amène comme modification importante et qui tous travaillent à différents niveaux, que ce soit des niveaux de définition, d'approche en politique publique, que ce soit des niveaux de définition de nouveaux types d'exploitation ou que ce soit des niveaux de compréhension et de modélisation ou de gestion. Vous avez partout, dans les laboratoires, dans les syndicats de bassin, dans les collectivités, dans les régies, vous avez des gens qui, tous les jours, on les met dans le cambouis pour que ça fonctionne bien.
Alors, vous êtes très positif sur ce sujet, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui sur la vigne. On sait que demain, très certainement, la vigne va continuer à souffrir de la salinisation. On ne peut plus dépenser de l'eau douce comme on l'a dépensée à l'époque. Et pourtant, on voit les vignerons qui, même ce week-end, étaient encore en colère et font comme si de rien n'était, quoi.
Alors moi, je raisonne pas tout à fait comme ça. Je crois que les gens sont conscients du fait que les choses changent. Mais c'est compliqué de vouloir tout changer et ça prend du temps. Et il faut bien comprendre ça. Parce que vous avez des gens qui sont parfois depuis des générations dans un type d'activité. On peut parler de la vigne, comme on peut parler de l'ostréiculture, comme on peut parler d'un certain nombre d'autres domaines. Et vous avez de cette façon-là des gens qui sont ancrés dans une histoire familiale souvent, dans une culture particulière. Vous les faites pas changer en l'espace de 2 ans, de 5 ans ou de 10 ans. C'est du long terme.
Qu'est-ce que vous appelez du long terme ?
Une génération. Il faut une génération au moins pour que les choses changent et qu'elles évoluent. Et donc,
vous craignez pas que justement les modifications climatiques aillent plus vite que ça? Les chercheurs nous avaient annoncé 2030, 2050, 2100, et finalement, on est en train de s'apercevoir que, alors qu'on les avait souvent taxés d'être catastrophistes, finalement, ils ont été un peu en deçà de la rapidité à laquelle les choses se dessinent.
Tout à fait. Les choses avancent vite. Mais pour autant, vous n'arriverez pas à... Il y a certaines choses que vous ne pourrez pas modifier du jour au lendemain. C'est impossible. Et donc, il y a toute une transition à mettre en place. Et il faut accompagner les gens dans la transition. Et il faut le faire, y compris à travers des mesures qui, aujourd'hui, peuvent sembler aberrantes au regard de ce que sera demain.
Alors, vous venez de participer à deux grandes rencontres sur Montpellier. Une que vous avez organisée, Europe-Afrique, qui a été un très grand succès. Et l'autre que vous avez ouverte, l'autre à Montpellier, avec les académies. Que faut-il en retenir pour notre action demain? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Parce que c'était deux réunions extrêmement importantes, mais on a beaucoup écouté aussi les sachants. Et... quand on doit se dire que faudra-t-il faire, peut-être pouvez-vous nous aider un peu?
Alors, d'abord, je pense que les deux manifestations étaient de nature quand même assez différente. Les Montpellier Water Days étaient un élément important de la biennale de Montpellier, la biennale Europe-Afrique de Montpellier. Et le colloque de l'Académie des sciences était aussi un événement important dans ce qu'il a rassemblé d'intervenants. Moi, ce qui me semble, la résultante un petit peu de tout cela, c'est que, alors d'abord, c'est un petit peu ce que je disais précédemment, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui conscients des difficultés qui sont devant nous et qui, au quotidien, que ce soit dans un système opérationnel ou dans un système de recherche, travaillent pour faire en sorte que les choses se passent du mieux possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés devant nous, hein. C'est qu'au contraire, il y a de vraies difficultés et qu'il faut travailler dur pour trouver le moyen de faire en sorte que les choses continuent à aller le mieux possible. Quand vous dites on a entendu les sachants, et quasi uniquement les sachants, quand je regarde les Montpellier Water Days, c'est quand même pas tout à fait le cas.
Les Montpellier Water Days, j'ai parlé de la deuxième réunion.
D'accord. Parce que justement, ce que j'ai trouvé très intéressant dans les Montpellier Water Days d'octobre, auxquels vous avez participé d'ailleurs, Dominique, c'était précisément le fait que nous ayons pu rassembler
des acteurs.
L'ensemble des acteurs. Hein. Il y avait des entreprises, il y avait des collectivités territoriales, il y avait des institutions, il y avait des scientifiques, il y avait des ONG. Et donc, il est nécessaire, aujourd'hui, compte tenu de la difficulté, il est nécessaire d'avoir des temps qui sont des temps d'échange.
Mais je suis contente de vous entendre dire cela, parce qu'on entend tellement de monde se monter contre les COP, qui, c'est vrai, avancent à pas de loup par rapport aux difficultés qui se font jour. Donc, ces colloques, est-ce qu'ils ont quand même une utilité, quoi?
Ah oui, moi je pense que ça reste important. Il faut que les gens se parlent. Et alors, vous me direz, ils peuvent se parler sans se rencontrer. Mais je pense que c'est bien quand même que de temps en temps, les gens puissent être tous autour d'une table et discuter entre eux. Et là, je trouve que ce qu'on a réussi à faire à Montpellier dans le cadre de la biennale, c'était précisément ça. Et la métropole et nos amis, nos collègues de la métropole avec qui on a travaillé pour monter ces deux journées, étaient persuadés aussi que c'était vraiment la direction qu'il fallait prendre. Donc, vraiment, il fallait avancer là-dessus.
Mais en même temps, vous vous désolez un peu de voir que ça n'avance pas assez vite. Enfin, c'est ce que vous avez dit il y a un mois à peu près.
Ce que je pense, c'est qu'effectivement, il faudrait que les choses puissent aller plus vite. Et en même temps, c'est ce que je vous disais précédemment, je suis aussi conscient du temps qui est nécessaire pour faire changer les choses. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est aujourd'hui, il est tellement facile de stigmatiser les uns ou les autres. Où il est tellement facile finalement d'avoir des positions qui soient extrêmement clivantes. Parce que finalement, on est sûr qu'on détient la vérité, donc on n'écoute pas les autres. Si c'est comme ça, effectivement, on n'y arrivera pas. La seule obligation qu'on ait, et c'est ce que je retire finalement de ces deux journées, ou de ces deux événements, c'est des compétences, il y en a dans tous les domaines. Et ça correspond finalement à la nature de l'eau, qui est cette transversalité permanente.
Complexité aussi.
Complexité, transversalité, ça contribue à l'invisibiliser un petit peu. Et ça, il faut qu'on en sorte. Au-delà, je dirais, des demandes de sobriété, des besoins de recours à la science pour imaginer un certain nombre de solutions qui viendront à notre aide, il faut qu'on soit capable de comprendre que notre regard sur l'eau doit changer.
Et alors ça, pour ça, vous choisissez de travailler avec les enfants?
Alors, on considère qu'effectivement, travailler avec les jeunes, les plus jeunes, y compris d'ailleurs les scolaires, c'est faire passer des messages quand ils sont en capacité de les entendre et de les répercuter vers les adultes.
Donc en fait, les deux voies sont parallèles.
Les deux voies sont parallèles. Vous savez, l'avantage d'être un centre UNESCO, c'est que finalement, tout nous est possible, dans la mesure où l'UNESCO travaille, évidemment dans le domaine scientifique, mais je vous rappelle que le E de UNESCO, c'est Education, et que le C, c'est Culture. Et donc, on essaye, nous, en tant que centre UNESCO, même si nous sommes tous des scientifiques, parce que le centre s'est construit sur la base de laboratoires de recherche, l'idée, c'est qu'on puisse justement utiliser ces différents moyens d'action, ces différents leviers que nous offre l'UNESCO.
Alors, on aurait des milliers d'autres sujets à voir, notamment ce que vous allez faire l'an prochain avec justement les enfants des écoles, toutes les solutions qui apparaissent aussi avec la réutilisation des eaux dont on n'a pas parlé et la France se trouve un petit peu en retard. Donc, c'est quand même une des solutions sur lesquelles vous continuez de travailler.
On continue de travailler sur la réutilisation des eaux usées traitées, absolument, mais comme sur d'autres techniques aussi et d'autres moyens. Il faut ralentir les écoulements, il faut désimperméabiliser, il faut travailler sur la recharge artificielle des nappes. Il y a de nombreuses voies à explorer et sur lesquelles continuer à travailler pour améliorer la situation.
Et alors, ça, c'est l'UNESCO qui donne à voir aux universités ou bien vous arrivez
non,
à...
Non, c'est l'UNESCO, nous finalement... Vous savez, le logo de l'UNESCO, c'est quelque chose qui vous ouvre beaucoup, beaucoup de portes. Et c'est finalement le plus beau cadeau que nous fasse l'UNESCO quand il nous labellise. Et derrière, non, nos laboratoires, nos organismes de recherche, nos universités conservent toute leur capacité de décision en matière d'orientation des recherches des équipes.
Merci Eric Serrauer. Nous aurons l'occasion sans doute d'en reparler.
Avec grand plaisir. Merci Dominique.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.